Revue de presse de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre.
Semaine 4, année 2016, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Sommaire de cet article, mais pas très intéressant, c'est ça?
Ben, moins que d'habitude, on pourrait le dire. En tout cas, il y a des sujets qui reviennent, ça devient inévitable. On va discuter d'algorithmes, Microsoft et l'éducation nationale, la licence de l'OpenJDK d'Android, Pretty Easy Privacy, un truc un petit peu nouveau, pour le coup, et intéressant, la dégooglisation d'Internet, la guerre des brevets, mais en Europe cette fois-ci, et pour finir, rebelote sur l'OS souverain.
Le devoir.com, le logiciel libre remède à l'opacité des algorithmes, un article de Mathieu Gauthier-Pilote.
Bon, on en a déjà parlé plusieurs fois du problème des algorithmes qui sont fermés, on l'a vu avec Volkswagen, on l'a vu avec pas mal de problématiques de ce type-là. Et là, donc, c'est un article qui a été publié pour faire suite un peu à ce qui se passe avec Uber et toute l'économie collaborative avec des logiciels propriétaires. Ce que l'auteur dit, c'est il faut ouvrir ces algorithmes pour qu'on puisse savoir ce que ça fait, qu'on prenne le contrôle, qu'on puisse les modifier, les corriger, et comprendre vraiment qu'est-ce qui nous manipule et pas se laisser manipuler par nos logiciels.
Oui, cet article fait écho à un article dont on a parlé la semaine dernière sur le même site. Le Devoir, c'est au Québec. Ça se situe, mais la problématique est mondiale.
On a l'impression que c'est un peu le moment, parce que là, les algorithmes, on en parle en ce moment, les députés, les différentes institutions, le sujet leur vient aux oreilles. Effectivement, le scandale Volkswagen, ça joue. C'est peut-être l'occasion, Mathieu, c'est le président de Facile, il milite pour le logiciel libre, et donc on a vraiment des cartouches à tirer, parce que le logiciel libre, c'est la bonne alternative pour ouvrir toutes ces boîtes noires qui vont contrôler nos vies, quoi. C'est assez terrible.
Donc on le rappelle, Facile, c'est une association québécoise sur le logiciel libre. Point intéressant, c'est que derrière il y a cette notion de code ISLO dont on a parlé pas mal ces dernières semaines et qui est une notion qui est finalement assez ancienne quand elle avait été dictée, c'était il y a quoi, au moins 10 ans, 15 ans?
Ah oui, par Laurence Lessig, qui est assez fameux maintenant.
Et on se dit que comme ça, quand il y a une notion qui est comme ça sortie très en avance et qui reste et qui est pertinente et qui 15 ans après bam, arrive comme une évidence, on se dit que ça c'est une vraie notion forte. Et je pense que c'est un point à marquer et à retenir, c'est que code ISLO c'est quand même quelque chose de fort et de significatif. Numérama, recours et menace de plainte après l'accord entre Microsoft et l'éducation nationale, un article de Guillaume Champeau.
Il y a une petite nouveauté dans le sujet qui nous tracasse déjà depuis quelques semaines. Il est question d'une plainte légale au pénal, si j'ai bien compris, contre Microsoft et l'éducation nationale.
Voilà, ils ont même montré un groupe, Edunaton, qui porte plainte en fait en disant ce partenariat-là, ça aurait dû être fait l'objet d'un appel d'offres public, ça doit faire partie du marché public. On n'a pas affilé les clés comme ça à une société sans mettre en concurrence, avec tous les effets de bord que ça, puisque c'est signé avec Microsoft Irlande, etc. Et donc, apparemment, ce groupe-là va porter plainte devant les tribunaux administratifs pour essayer de faire casser ça, et dire, vous devez refaire des appels d'offres, et ça, ce truc-là est illégal, donc cassez-le.
Alors, ils menacent de faire un procès. En fait, ils disent annuler cet accord. Donc, dedans, on retrouve le CNLL, comme on l'a dit, l'association La Mouette, qui est une association sur la bureautique, libre, bien sûr, et l'association PLOS RA, donc c'est en gros un groupe local d'entreprises du libre.
En tout cas, ils ont un peu des couilles, parce que là, ils s'attaquent à des mastodontes, que ce soit le ministère ou l'entreprise, et eux, ils n'auront pas que deux avocats, parce que là, ils ont deux avocats qui ont l'air très bien, qui sont motivés et qui vont se lancer, mais face à eux, ils vont avoir des équipes.
Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'argumentaire, c'est de dire que ce n'est qu'un accord qui n'est pas contraignant, qui n'oblige personne à utiliser du Microsoft, mais c'est juste qu'il y a tellement d'avantages.
Il y a 13 millions d'euros en échange,
oui,
il y a plein de trucs gratuits, d'accord,
pour des formations gratuites, des tas de choses comme ça pour les écoles.
Je pense que c'est surtout ça qui gratte, c'est que Microsoft, en fait, outre les 13 millions effectivement, qui sont donnés à l'éducation nationale, va avoir ce qu'on appelle la première dose gratuite, vraiment rentrer par la petite porte. En foutre partout,
eux, clairement...
et voilà, ça va être le gros bordel après pour se remettre en concurrence face à ça.
C'est un investissement, même les 13 millions, c'est
oui,
rien
c'est
du tout.
Oui, c'est peanuts par rapport à ce qu'ils peuvent récupérer derrière.
Par rapport à tout ce que ça peut récupérer sur le long terme, effectivement, c'est monstrueux. Alors, dans les avocats, il y en a un des deux, l'autre je connais pas, mais il y en a un des deux qui était rentré au cabinet de je sais plus qui au début du mandat de Hollande, si ma mémoire est bonne. Donc, il a changé de camp.
c'est pas si mal, peut-être qu'il a vu la lumière. Il s'est dit, tiens, il y a du monde, allez, j'y vais. En tout cas, il va probablement être utile, ne serait-ce que d'en parler, c'est déjà intéressant. Et à un moment donné, les administrations locales de l'éducation, les collèges, les lycées, eux-mêmes, ils ont des choix et ça permettra peut-être de voir qu'il y a autre chose.
Bon, en tout cas, je pense que le ministère, quand il a fait ça, et Microsoft pareil, ils ont dû quand même se border juridiquement, donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va être musclé quand même. Le monde informatique, Google défend sa licence open source OpenJDK pour Android, un article de John Ribeiro.
Bon, c'est un peu compliqué là quand même, hein, parce qu'on rentre dans les histoires de licence, donc ça c'est jamais simple. Mais en gros, on en avait déjà parlé, hein, Oracle a poursuivi Google pour violation de son API, donc en fait des méthodes qui viennent de Java, donc de Oracle, qui sont réutilisées dans Google.
Et ils l'ont attaqué d'assez mauvaise foi, parce qu'en gros, ils n'ont pas recopié du code, mais c'est là-dessus qu'ils attaquent. Ils ont recopié la forme du code, on va dire, des signatures de code. Et le juge, la première fois, leur a dit, c'est une blague, vous ne pouvez pas les accuser de ça. Mais finalement, on appelle, ça mène un peu son petit chemin. Et en tout cas, Google change son fusil d'épaule, pour sûrement d'autres raisons, outre celle-ci, mais il passe au vrai Java, sous la forme OpenJDK, qui est libre, archi libre.
Alors, vrai Java, je pense que tu vas te faire plein d'ennemis sur cette terre. Mais effectivement, en fait, Sun avait lancé le projet OpenJDK avant de se faire racheter par Oracle. Donc, OpenJDK est une version vraiment libre et qui ne pose pas de problème au niveau de licence par rapport à Oracle, puisque ça appartenait à Sun. Mais justement, Oracle dit, en fait, non, parce que vous n'avez pas le droit de changer de licence comme ça, ça vous efface pas le passé. Et
ils disent, ok, voilà. Peut-être que la nouvelle version n'a rien à dire, mais en tout cas,
mais
ça
voilà, il y a quand même du passé derrière et ça empêchera pas que vous allez quand même devoir cracher au bassinet et du coup, on n'annulera pas nos plaintes à cause de ça, et voire même vous allez vous truander en fait, parce que le fait de passer sous cette licence là vous allez perturber les juges ou autres. Enfin, c'est un vrai casse-tête juridique et Oracle essaye de traiter dans là-dedans. C'est très compliqué.
C'est
mais
des grosses boîtes qui ont énormément de moyens. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que Google, on peut se dire, ils arrêtent tout de suite, même s'ils vont avoir des problèmes sur ce qu'ils ont fait ces dernières années. Ils ont dit, on passe par le libre pour se dédouaner de tout ça.
Il y a probablement d'autres bonnes raisons, hein. C'est que c'est plus simple aussi de suivre le courant majeur de l'OpenJDK. C'est plus simple.
Et surtout qu'OpenJDK est devenue la version officielle de Java, hein. Ce n'est plus la version d'Oracle depuis très longtemps.
C'est le vrai Java. Donc,
voilà, c'est le vrai Java.
Le Monde.fr, Pretty Easy Privacy, le chiffrement automatique par défaut pour tous, un article de Yves Eudes.
Un projet qui peut-être sera intéressant, ça fait pas mal discuter dans les communautés libres ce petit projet-là, donc ils arrivent en disant, on va mettre de la crypto partout et de la vie privée partout. C'est vrai que ça manque, mais il y a pas mal de petits trucs qui chatouillent un peu à droite à gauche.
Sachant que même le nom est basé sur PGP, qui est l'ancêtre le plus connu dans le monde de la vie privée, mais qui était très compliqué à utiliser bien. Et même aujourd'hui, on dit aux gens, faites gaffe quand vous l'utilisez, vous allez vous planter.
C'est ça, quoi. PGP, le jour où vous arrivez à faire quelque chose qui marche, vous me faites signe, parce que c'est vraiment l'enfer.
Donc là, l'accent est mis sur la facilité. Donc l'idée, c'est de l'intégrer directement dans les logiciels, et que ce soit facile, etc., avec cette idée que le jour où ça marche pas pour une raison X ou Y, ça nous bloque pas. On est au courant que ça n'a pas marché, mais ça nous empêche pas d'envoyer un mail ou ce genre de choses. L'objectif, c'est de dire, on va chiffrer un maximum de données, et du coup, rendre l'espionnage, notamment de la NSA, de plus en plus coûteux, de plus en plus compliqué.
Il semble y avoir une orientation entreprise. Si je comprends bien, ils ciblent pour avoir des marchés, ils ciblent des gens qui ont un peu d'argent, et ils ont cette cible aussi de couvrir des réseaux locaux pour qu'à l'intérieur de l'entreprise rien ne soit chiffré, mais que dès qu'on sorte là, le chiffrement s'installe, se met en place, et effectivement avec différents niveaux pour quand même se faciliter la vie.
Voilà, alors après ça fait un peu polémique parce que la première version qu'ils ont sortie c'était pour Outlook, et donc faire de la vie privée sur le logiciel Microsoft, c'est un peu compliqué.
Ambitieux.
Et après voilà, ils ont des choses un peu ambitieuses, enfin ça fait un peu la lettre au Père Noël, hein. Ils veulent la crypto partout, réutiliser, enfin voilà, dégager PGP, OTR, enfin tous les mécanismes de chiffrement et autres. Donc on attend de voir, hein, mais c'est très compliqué.
Ce qui est intéressant, c'est que derrière ce projet, c'est un libriste pur jus qui est associé avec un patron pur jus qui s'est dit que se faire espionner à tour de bras, c'était pas super intéressant. Et donc du coup, ils se sont dit qu'ils avaient peut-être des intérêts communs. Autre sujet très intéressant, c'est qu'ils vont a priori reprendre Thunderbird, le logiciel de messagerie de Mozilla. Et Mozilla, depuis un certain temps, annonce qu'ils veulent s'en débarrasser, ne plus le développer.
Alors c'est pas une reprise franche, mais en tout cas, ils vont contribuer au projet vraisemblablement. J'ai vu ça dans d'autres articles, mais on ne sait pas exactement de quoi il va s'agir. Probablement, en tout cas, ils vont mettre des billes là-dedans, ils vont contribuer au développement de Thunderbird, qui est plutôt pas mal.
Ce qui est plutôt pas mal, parce que même les plugins qui existent déjà sur Thunderbird aujourd'hui font pas vraiment bien le taf en termes de chiffrement, et donc on verra si ça, ils arrivent à faire un peu mieux.
Le Telegram, ils veulent dégoogliser Internet. Un article de la rédaction.
Avec une grosse tête de pig en page principale.
Donc pig, ce n'est pas un cochon. C'est Pierre-Yves Gosset, ce sont ses initiales. C'est lui qui est en gros à la tête de Framasoft actuellement. Et en gros, c'est une présentation de leur campagne.
Voilà, donc on va pas la rappeler, on en a déjà parlé plusieurs fois. Mais allez sur leur site, dégooglisons Internet. Et vous verrez donc du coup toutes les alternatives aux outils privateurs que sont les GAFAM. Donc Microsoft, Google, Apple et tous les autres. Et vous avez plein de chouettes projets qui sont en train d'être lancés ou qui seront lancés prochainement. Ils ont une vision à très long terme, hein. Ils parlent déjà de 2017, 2018 ou 2020, donc ça fait plaisir à voir et ça a l'air de plutôt bien accrocher.
2017, c'est pas du très long terme.
Pour certains politiques, si.
Bloomberg, Get ready for patent wars as IP Europe consortium is unveiled. Un article de Marie Mawad.
C'était pas facile.
Non, c'était pas évident.
Mais alors le sujet non plus, il est pas facile, parce que c'est les guerres de brevets, en quelque sorte, de brevets logiciels hein, qui nous embêtent le plus, qui sont en train de s'amener en Europe à grands pas par l'intermédiaire d'une sorte de consortium géant, d'entreprises géantes qui ont des intérêts là-dedans.
En fait, c'est justement le but, c'est d'éviter ce qui se passe avec Google, Apple, Microsoft et tout ça, et donc en fait de faire un consortium où ils vont centraliser tous les brevets. Ils vont se dire qu'entre eux, on va pouvoir se piquer les idées, mais par contre, dès que quelqu'un va essayer de rentrer sur ce précaré-là, bah, tout le monde va leur tomber dessus et ça réglerait assez violemment les problèmes. Et donc, c'est un peu un espèce de gros consortium qui va tout phagocyter, quoi.
C'est ce qu'on appelle un pool de brevets aux États-Unis. Hein.
Alors, je l'ai pas lu que dans ce sens-là. Moi, c'est surtout lu que pour moi, hein, en gros, ce qu'ils veulent, c'est changer les lois européennes et les habitudes européennes et faire en sorte que les brevets soient beaucoup plus facilement à rémunérer en Europe, parce que c'est pas vraiment le cas encore aujourd'hui. L'Europe,
en théorie, les brevets logiciels ne sont pas censés être reconnus.
Alors, c'est la différence entre la théorie et les pratiques, c'est qu'il y a déjà des dizaines de milliers de brevets logiciels en Europe qui sont reconnus, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à en faire du fric, parce que bah, ça n'a pas vraiment de base légale, c'est pas légitime.
Bon voilà, on peut craindre le pire, hein, parce que voilà, notamment, enfin, il y a toutes ces grosses boîtes qui ont mis de l'argent dedans au cas où, etc. Puis c'est aussi un bon moyen pour casser les pattes des PME qui sont trop innovantes, trop agiles, etc. Parce que bon, voilà, nous on a des brevets, ils en ont pas, donc ils ont beau être malins, nous on est riches, c'est un peu le principe. Et bon voilà, c'est pas très bon signe, quoi. ZDNet France, OS souverain, le choix Linux pour nos lecteurs, un article de la rédaction. Donc ça revient sur ce gros troll de l'OS souverain.
Énorme troll !
Voilà, et là c'est une sorte de retour de ce que les lecteurs de ZDNet ont pu avancer comme argument.
Voilà, donc pour rappel, c'est l'OS souverain, ça a été lancé, c'est une idée qui a été lancée sur le projet de loi numérique.
Et qui n'est pas forcément fondamentalement une mauvaise idée.
Qui n'est pas une mauvaise idée, hein, mais après ça dépendra comment ils vont le faire. On suppose mal, ce qui est un peu le problème. Mais du coup, bah, les idées qui sont arrivées derrière, surtout avec la préférence logiciel libre et toute la vague libre derrière, bah, c'était de plutôt que de refaire un OS depuis zéro, bah, utiliser Linux qui existe déjà.
Ça paraît peu crédible qu'on arrive à refaire un OS à partir de zéro.
Ouais.
OS, hein, système d'exploitation, ouais. Donc Windows, GNU Linux, les choses comme ça, on vous rappelle, parce que nous on a l'habitude, mais pas forcément tout le monde.
Même la Corée du Nord a fait son OS basé sur Linux. Base du logiciel libre, donc bon... Voilà, la question, c'est en gros, y a un peu toutes les réactions qui font le tour du problème.
Il y a pas mal d'orientations, hein, on sait vraiment pas ce qu'ils veulent les députés, je suis pas sûr qu'eux-mêmes savent, mais il est aussi question de se baser sur un OS déjà existant fait par des institutions françaises, qui est très orienté sur de la sécurité.
Oui, enfin ça c'est sorti par l'ANSSI, hein, donc si vous arrivez à l'utiliser, c'est très bien, mais
je
c'est vrai que...
Je crois que l'ANSSI eux-mêmes ont dit que c'était
ouais,
pas vraiment
c'était
crédible.
C'était pas très, très utilisable, ouais. C'est vraiment pour des systèmes très très critiques où il faut vraiment beaucoup de sécurité, et oui, non, vous l'utiliserez pas en tant que simple particulier, de toute façon vous pourrez même pas envoyer une mail tellement il y a besoin d'avoir deux couches de sécurité. Donc, mais bon, après, il faut voir ce que ça donne. Hein. Ils expliquent un peu aussi que c'est pas vraiment une idée d'OS souverain. On a plutôt lancé des idées avec un consortium ou des choses comme ça pour réfléchir là-dessus, comme on aime bien.
En fait,
ou des rapports.
Faire un rapport, et puis après, c'est une sorte de commissariat qui dépendra du premier.
Donc, on aime bien les rapports en France. Voilà.
Hein. On rappelle, il existe déjà des OS souverains. Ça s'appelle Ubuntu FR, par exemple, qui est plutôt pas trop mal.
Majoria, qui est développé par des Français, essentiellement.
Et même qui ont déjà été installés pour les parlementaires.
Voilà. Mais sauf que l'État ne peut pas mettre ses propres systèmes de surveillance dedans. Moi, je vous propose un petit jeu. On fait nos pronostic, est-ce que ce truc débouchera sur quelque chose et dans quel délai ?
Un emprunt national avec beaucoup de fric qui va être donné à des grosses boîtes françaises.
Et est-ce qu'il y aura
un... Oh là, tu es très utopiste, là, je trouve.
Nicolas, tu penses que ça débouchera sur quoi ?
Non, ça débouchera sur pas grand-chose, il n'y a pas les moyens de faire ça, ou alors il faudrait effectivement qu'ils décident bah, voilà, que telle distribution Linux devient la référence française. Et soit
bah, ils ont fait le cloud souverain.
Ils ont fait le cloud souverain, on a vu ce que ça donne. Hein, ouais, Lumergie et
ils
Orange
ont donné plein de boîtes,
et...
plein d'argent à des grosses boîtes françaises.
Des grosses boîtes françaises
qui
ont fermé ou qui se sont fait racheter. Donc, non, bah, toutes les idées sur le numérique qu'on a lancées en France, ça a fait un peu pchit à la fin, donc là, je pense que ça ne prendra pas beaucoup plus.
Moi, je pense que ça ne dépassera pas le stade à quoi que... Ouais, s'ils sont capables de sortir le pognon. Je pense que... Ouais, j'ai du mal à...
S'ils vont sortir le pognon, ils vont le perdre et ils vont arrêter là.
Voilà. Bon, en tout cas, on se mouille, vous pourrez revenir nous voir dans quelques années.
C'est du pognon à donner aux amis, vous inquiétez pas, ils vont y arriver, il n'y a pas de souci.
Très bien, on a fait le tour de cette revue de presse.
Eh ben, je te dis à la semaine prochaine.
Salut à tous.